Bonjour. On va donc vous parler de deux expositions qui ont donné lieu à cette saison italienne au printemps 2015 au Musée d'Orsay de l'Orangerie. Donc la saison s'appelait Italie 20e. C'était vraiment la volonté du président Guy Cogeval de présenter au public français des sujets plutôt inédits, plutôt méconnu, comme Gennaro l'a évoqué tout à l'heure, un sculpteur qui n'est pas très connu en Italie aussi, et une exposition Dolce Vita consacrée aux arts décoratifs italiens du début du XXe siècle en relation avec la peinture. Donc il s'agit des expositions que nous avons organisées vraiment en parallèle. J'étais commissaire de deux expositions, Ophélie était commissaire de l'exposition sur Adolfo Wildt en tant que spécialiste sculpture, mais elles ont posé des questions, des cas plutôt différents. Pour cette raison, c'est pour nous intéressant de les présenter ensemble. Comme je l'ai dit, elles sont vraiment complémentaires. Elles sont nées pour faire connaître cette saison méconnue de l'art italien, mais avec des développements, une organisation différente. Tout d'abord, parce que Dolce Vita, je vais peut-être dire deux mots à propos du titre, que voilà, peut sembler un peu... Dolce Vita, c'est le titre d'un film de Fellini des années 60, donc le choix d'un titre pour une exposition, c'est toujours un sujet pas facile, qui implique beaucoup d'acteurs, c'est-à-dire la communication, le président, bien sûr, le commissaire, tout le monde fait une réflexion sur le titre de l'exposition. Et au début, c'était un optimisme paradoxal parce qu'on voulait mettre en avant comment l'Italie, dans cette période du début du XXe siècle, dans un contexte historique très difficile, a quand même vécu une période très riche du point de vue de l'histoire de l'art. Donc c'était le paradoxe d'un essor, d'un optimisme dans l'art qui est presque inattendu pendant une période historique si difficile. Mais on s'est vite aperçu que les titres, c'était peut-être pas, il n'avait pas vraiment un appeal, c'était pas le plus facile. Et donc on a choisi d'évoquer quelque chose de vraiment italien. Dolce Vita, c'est connu partout, comme c'est vraiment, il identifie l'Italie, les pays italiens tout d'abord, avec un point d'interrogation, parce que ça pose la même question. Est-ce qu'on peut parler d'une dolce vita, d'un bonheur de vivre, comme les arts décoratifs peut-être le montrent, dans une période si difficile? Et comme je vous disais, l'organisation a été assez différente, parce que Dolce Vita, ça, c'était une exposition qui a été conçue par nous et faite à partir de zéro. Moi, j'étais commissaire, mais je suis spécialiste peinture. Donc, on a fait appel à des spécialistes de l'art décoratif italien du XXe siècle, avec un rôle de commissaire extérieur. Le cas est différent pour Wildt, parce que même si, comme nous l'avons évoqué, c'est un personnage plutôt méconnu, il se trouve qu'une monographie avait eu lieu en Italie en 2012. C'était pour nous très important de donner vie, donner lieu à un partenariat avec les organisateurs, avec la ville de Forlì. Et donc je laisse la parole à Ophélie pour parler plus dans les détails de ce partenariat.
Oui, effectivement, donc il y avait eu cette monographie en 2012. On a approché Beatrice, qui connaît très bien l'un des deux commissaires, notamment de cette exposition de Forlì, donc il nous a servi de conseiller scientifique pour l'exposition. Donc pour nous, c'était très précieux, puisque effectivement ils avaient déjà mené un travail de fond tous les deux. Le corpus d'œuvres de Wildt est assez resserré. Évidemment, c'est un sculpteur qui termine toujours ses marbres, donc on a forcément un corpus assez limité. Très identifié, les localisations sont dans la mesure du possible très connues d'eux, et donc pour nous c'était assez naturel de se rapprocher d'eux. Et donc la ville de Forlì, qui avait organisé l'exposition, nous a fourni la liste des œuvres avec leur localisation, leurs valeurs d'assurance, les préconisations. Donc, si vous voulez, dès le départ, on avait quelque chose d'assez bordé, en tout cas au niveau du corpus des œuvres de Wildt. Après, on a fait notre marché dans ces œuvres pour raconter la monographie qu'on souhaitait raconter. Alors là, ce qui est assez facile aussi, c'est que Wildt, finalement, les œuvres de Wildt sont soit en collection publique, soit dans les mains de collectionneurs privés passionnés, et donc qui ont pour la plupart à cœur de montrer l'œuvre de Wildt et de la faire connaître. Donc on n'a pas eu à convaincre, c'est vrai à ce niveau-là par rapport à d'autres expositions, à convaincre longtemps les collectionneurs de nous prêter leurs œuvres. C'était assez naturel, donc on est allé les voir, à chaque fois ça s'est très bien passé. Le gros travail qu'on a mené par rapport à l'exposition italienne, c'était vraiment tout le travail sur les œuvres dites de comparaison. Et là, vraiment, on a adapté au public français, enfin, au public qui vient à Paris, en tout cas, et aussi au contexte d'une première rétrospective sur un artiste inconnu. Donc, par exemple, pour moi, c'était important d'avoir des œuvres comme celle de Rodin en résonance, puisque... voilà, il est contemporain. C'est important de montrer aussi ce qui se fait, enfin la temporalité, ce qui a lieu en même temps, qu'est-ce qui se passe, puisque Rodin est quand même assez incontournable, évidemment, dans la sculpture de la période. Donc vraiment, tout le travail qu'on a fait, c'était resserrer le corpus et puis en même temps essayer de faire dialoguer avec les œuvres de comparaison. On le verra plus profondément tout à l'heure. Et sinon, c'est effectivement ce partenariat a principalement eu lieu avec Fernando Mazzocca, donc le commissaire de l'exposition de 2012 et notre conseiller scientifique. Et effectivement, on a bénéficié de la protection du ministère des biens culturels qui nous a permis, mais je dirais de manière chaotique quand même, à obtenir toutes les autorisations de sortie, certaines d'ailleurs vraiment au dernier moment. Mais malgré tout, ça a permis de débloquer les choses qui étaient un petit peu bloquées de manière inquiétante un mois et demi avant l'exposition.
Un mois et demi, voilà. même deux jours avant le vernissage, on va pour Dolce Vita. Donc Dolce Vita, c'était plutôt différent dans l'organisation pour une exposition qui naît d'un projet que nous avons fait à partir de zéro, comme je l'ai dit. C'est très important de réfléchir auprès de... En exposition comme Dolce Vita prend à peu près 2 ans de travail. Donc, comme il n'y a pas, Gennaro l'a évoqué tout à l'heure, un musée d'art décoratif italien, d'art décoratif, où des œuvres d'art décoratif présentées en France de façon, complète, mais en Italie aussi. Donc, pour nous, c'était surtout un travail avec les collectionneurs particuliers. Et c'est vrai que nous avons fait beaucoup d'émissions en Italie pour aller voir les collections, pour connaître et surtout convaincre les collectionneurs à nous prêter les œuvres. Parce qu'en Italie, comme le disait Ophélie tout à l'heure, c'est très difficile, surtout pour les particuliers, d'obtenir l'autorisation des sorties du territoire. Donc, d'un côté, de faire des expositions concentrées sur un pays, l'Italie, c'est bien du point de vue budgétaire, parce que ça nous permet évidemment de faire de l'économie du point de vue du transport. Les œuvres pour Wildt et Dolce Vita, parfois, venait du même prêteur était localisé au même endroit, donc ça nous a permis vraiment de faire de l'économie. Mais en même temps, l'Italie, c'est un cas de figure plutôt particulier à cause des lois de sortie du territoire, qui sont des lois anciennes qui datent de l'époque fasciste, de 1936, et qui souvent empêchent aux particuliers de faire sortir leurs œuvres du territoire italien. Donc, nous avons bien sûr négocié à l'avant les prêts. Nous avons, on peut peut-être passer, les travaux, au début, c'est surtout de réfléchir, élaborer une liste d'œuvres. C'est un travail que nous faisons avec le président, bien sûr, et les commissaires extérieurs. Pour nous, il s'agissait surtout de créer, de trouver un dialogue entre art décoratif et peinture. Donc, c'est vrai que nous n'avons pas eu de partenariat, mais quand même, il y a des musées en Italie, comme les musées Richard Ginori, qui sont... très important parce qu'ils ont les collections anciennes de porcelaine Richard Ginoli. C'était tout à fait un des aspects les plus importants de notre exposition. Et en ce moment, en Italie, le musée Richard Ginoli est fermé, ce qui nous a permis d'obtenir environ 40 œuvres de ce musée. Donc, même si on ne peut pas parler d'un vrai partenariat, c'est quand même une collaboration très, voilà, très importante avec le musée Richard Ginoli. Et une autre, voilà, c'était parfois il y a des complications pendant la préparation d'une exposition, des choses qu'on ne peut pas envisager. Il y avait un collectionneur d'art décoratif en Italie très important dont nous avons fait la connaissance. Nous sommes allés le voir avec Guy Cocheval plusieurs fois. Il nous avait accordé les prêts de 40 œuvres qui étaient vraiment verre de Murano, porcelaine de Gio Ponti. C'était voilà, vraiment le cœur de notre exposition, mais malheureusement, le monsieur qui était très âgé est mort quelques mois avant la présentation de l'exposition. Malheureusement, il y a des choses qui arrivent qu'on ne peut pas prévoir. Et donc, vraiment, à la dernière minute, on a dû remplacer presque voilà, une trentaine d'œuvres dans l'exposition. Et la liste est toujours une liste idéale au début. Ça change, ça évolue beaucoup au cours de la préparation d'une exposition parce qu'évidemment, on a des refus. On trouve des œuvres auxquelles on n'avait pas pensé. On les trouve en allant voir les collectionneurs, les musées, en faisant de la recherche. Et donc, les travaux, c'est surtout sur la présentation de l'exposition. C'est pour nous très important. Donc, le choix d'un scénographe. Là aussi, Dolce Vita et Wild ont posé deux situations très différentes. Parce que pour Dolce Vita, normalement, on fait des appels d'offres. Donc, on met en ligne, voilà, on publie un appel d'offres pour les scénographes. On retient normalement trois scénographes. Après, on fait les choix final sur la base du projet qu'ils présentent. Mais pour Dolce Vita, c'était vraiment le souhait de Guy Cocheval de faire appel, de collaborer avec un grand designer de notre siècle, de notre époque, Alessandro Mendini, qui est un des plus connus designers italiens, pour vraiment faire dialoguer la vision d'un artiste, voilà, d'un designer contemporain avec le designer, ce qui est à l'origine les artisans, les artistes, les ébanistes qui sont à l'origine du design italien. Donc nous avons fait appel à Alessandro Mendini, qui est le créateur du fauteuil de Proust, du célèbre fauteuil de Proust, qui a tout de suite accepté notre proposition et donc qui a donné vie à ces dialogues entre présent, actualité et passé, qui est, je trouve, très réussi dans la présentation de l'exposition. Et donc, après toutes les démarches qu'on fait, on va les regarder plutôt dans les détails pour Wild, mais on passe à travers de différents. Là, donc, c'est une collaboration très stricte avec les scénographes. Voilà, on ne peut pas parler d'un partenariat, mais c'est toujours voilà, dans le cas d'une collaboration, d'un dialogue très strict. On commence par un avant-projet sommaire qui, sur la base. Donc, il s'agit tout d'abord de vérifier que tout peut rentrer dans les salles d'exposition pour une exposition comme Dolce Vita. Où nous avions presque 200 numéros d'œuvres exposées. C'était le bout de faire dialoguer les arts décoratifs et la peinture et de créer une succession assez dynamique, une succession chronologique qui montre vraiment le développement de l'art décoratif et de la peinture en Italie. Donc voilà un premier projet. Il y avait encore beaucoup de choses à corriger. Et comme vous le verrez par la suite, ce sont des salles chronologiques, donc qui commencent avec l'art nouveau italien, les libertés, pour aller vers le futurisme, les retours à l'ordre, le classicisme. Elles sont tout d'abord l'idée de Mendini, c'était de utiliser des couleurs différentes pour chaque salle, pour identifier chaque période. Donc, il a commencé tout de suite à travailler sur les couleurs qui allaient identifier ces différentes périodes. Il y a des choses qui par la suite il fallait corriger. Donc comme la salle, vous les voyez en ce marron rose qui, où les objets étaient tout au milieu, n'arrivaient vraiment pas à dialoguer sur les peintures qui étaient accrochées sur les cimaises. On n'arrivait vraiment pas à trouver un dialogue entre objets et peintures et tableaux. Et donc, on a beaucoup travaillé pour changer cette première présentation qui, d'ailleurs, prévoyait aussi d'agrandissement des détails d'œuvres sur les cimaises. Là, c'est un détail d'une œuvre de Zekine qui appartient aux collections d'Orsay, mais on a trouvé que ça vraiment empêchait de quelque façon ça empêcher la vision du tableau, ça interférait trop avec les tableaux, donc on a demandé à Mendini de corriger aussi ces détails. Donc voilà, c'est une évolution, vraiment ce sont des mois de travail en collaboration avec les scénographes, donc donc on arrive à un avant-projet définitif là où nous avons beaucoup changé, comme vous le voyez, la salle D, la salle en ces marron beige, avec voilà ce dialogue plus serré entre les arts décoratifs et les tableaux. Et aussi nous avons par la suite, il y avait des salles qui ne marchaient pas, et donc nous avons changé beaucoup l'ampleur des salles consacrées aux libertés parce que c'était trop petit au début. Et voilà donc tout le travail de correction que nous faisons avec les scénographes, surtout quand il y a, comme vous le voyez, malheureusement des refus d'œuvres, il faut parfois tout retravailler. Et le travail en parallèle est également sur les catalogues. Donc, les catalogues que, pour le Musée d'Orsay, c'est fait avec... nous avons un service d'édition au Musée d'Orsay. Là aussi, il s'agissait de présenter vraiment deux catalogues qui soient parallèles, donc même format, même présentation. Ce n'était pas le même graphisme, d'ailleurs, mais très, très proche. Mais là aussi, c'était différent des expositions qui ont eu lieu en même temps, mais ce sont deux typologies différentes de catalogues, parce que pour Dolce Vita, il s'agissait surtout de donner une vision sur la période, donc avec des essais sur les grandes périodes de l'art italien de ce moment. Pour Wild, comme il s'agissait de la première monographie en France, pour nous c'était important de faire un vrai travail de recherche scientifique, donc c'est une monographie avec des notices d'œuvres, donc c'est un travail d'à peu près 2 ans, et nous avons choisi donc de faire ce travail scientifique très détaillé sur l'œuvre de Wild, de façon que les catalogues puisse rester comme référence sur l'artiste qui n'avait jamais été présenté en France. Et voilà, après, donc, le moment évidemment le plus, qui nous rend le plus heureux, c'est évidemment l'arrivée des œuvres, l'accrochage des œuvres. Donc, quand l'exposition effectivement prend corps, là, nous travaillons avec le scénographe, l'assistant d'Alessandro Mendini, avec le régisseur qui a aussi un rôle fondamental, parce que le régisseur s'occupe de faire en effet arriver les œuvres en France de l'Italie, et avec tout ce qui concerne les assurances et les transports. Et aussi l'organisation du chantier qui prend à peu près de 2 ou 3 semaines, où il y a beaucoup d'acteurs, c'est-à-dire les régisseurs, la responsable du projet au sein du Musée d'Orsay, mais aussi beaucoup de convoyeurs qui viennent pour accompagner, vérifier les conditions de l'œuvre à leur arrivée dans les salles de l'exposition. Donc voilà toutes les différentes phases de l'accrochage qui parfois posent quelques défis à cause de la taille des œuvres. Et elle est une œuvre emblématique des difficultés qu'on peut rencontrer, parce que cette œuvre a été effectivement bloquée par la surintendance deux jours avant le vernissage. Donc moi je me suis aperçue que l'œuvre manquait toujours, n'arrivait jamais, donc je me demandais à notre régisseur, et donc il se trouve que l'œuvre était bloquée parce que ça avait été jugé, c'est en salle à manger d'un artiste futuriste, Giacomo Balla, ça avait été jugé comme œuvre d'intérêt national pour l'Italie. Et donc, c'était bloqué. Et on a fait les démarches nécessaires, c'est-à-dire le prêteur doit signer voilà, des garanties, doit même payer une caution pour faire sortir l'œuvre. Et voilà, ça, ce sont des choses très bureaucratiques, très techniques. Elle est arrivée le matin du vernissage, donc on a monté ça très vite. Ce sont les imprévus voilà, du métier. Mais on est arrivé enfin à réaliser cette exposition. Voilà, on fait passer très vite voilà, une première salle consacrée à la période Liberty, donc l'art nouveau italien avec deux œuvres. Pour nous, c'était intéressant aussi parce que nous venions d'acheter beaucoup d'œuvres, surtout d'art décoratif pour les Italiens, pour les musées d'Orsay. Un tableau de Vittorio Zecchini, un artiste vénitien, les voilà, du début du siècle. Donc c'était intéressant pour nous de présenter cette exposition aussi en relation à la vie des collections, aux acquisitions du musée d'Orsay. Voici la salle futuriste, enfin terminée avec la salle à manger et la grande tapisserie de Pero. Et vous voyez toutes les couleurs qui, du début, ont été choisies pour identifier les différentes salles, les différents moments historiques de ce parcours chronologique. Et vous voyez les détails d'une, voilà, derrière le tableau, les détails d'un agrandissement qui a été choisi pour remplacer les détails des tableaux. Nous avons choisi l'agrandissement de l'architecture de l'époque pour donner voilà, une vision complète de la période et nous avons choisi de ne pas accrocher des tableaux sur, sauf dans un cas, sur ces agrandissements pour, parce qu'ils ne gênent pas la vision du tableau. Et voilà donc la salle avec ces dialogues que nous avons créés entre objets et tableaux de la période. Voilà l'attention aux détails du scénographe avec voilà ces détails d'une architecture de Rome qui se reflète dans le miroir de ces pièces de mobilier qui nous a prêtées par un particulier. Là, les gros travail, vraiment, presque le 80% de l'exposition venait de collections particulières. Donc c'était vraiment un travail de négociation avec le prêteur. Et après, il y a voilà, toujours aussi on travaille en collaboration avec le service voilà, de la, comment on s'appelle ça, de la sécurité. Voilà. Bon, là, comme il s'agissait de beaucoup d'objets, il fallait évidemment les protéger. Donc beaucoup de cloches, beaucoup de... beaucoup de barrières, même quand les commissaires ne souhaitent pas voir les œuvres voilà, entourées par des barrières, nous trouvons quelquefois ça gêne voilà, notre vision, notre visuel sur les œuvres, mais il est vraiment nécessaire. Par exemple, vous voyez un fauteuil basculant, un fauteuil voilà, qui est un des œuvres les plus importantes du design italien des années 30, et donc notre responsable de la sécurité des œuvres me dit mais les personnes vont vouloir s'asseoir, essayer. Je disais non, c'est pas vrai, mais en effet c'est vrai parce qu'il y a des personnes qui ont essayé et donc il a fallu mettre une barrière. Ça, malheureusement, je l'ai pris surtout ici parce que voilà, à Orsay il y a quand même une grande affluence. On nous appelait tous les deux jours pour nous dire qu'il y a quelqu'un qui a cherché d'ouvrir un tiroir, il y a quelqu'un qui a cherché de toucher, voilà. Et donc, c'est très important de travailler aussi avec les services de sécurité pour voilà, bien protéger les œuvres. Et pour terminer, pour nous, alors, nous on parle souvent d'un partenariat comme pour Wild. Souvent, on recherche un partenariat, c'est-à-dire on cherche de faire rayonner l'exposition, on cherche une deuxième étape, et les deux expositions italiennes ont trouvé une deuxième étape, tous les deux en Italie. Bon, parce que les collègues italiens ont trouvé que nous avions fait un bon travail sur l'art italien. Et donc, Dolce Vita est partie à Rome en l'automne 2015. Jusqu'à janvier au Palazzo delle Esposizioni, et Adolfo Wild a eu une deuxième étape à la Galleria d'Arte Moderne de Milan, qui est la ville voilà, de naissance de Wild, où étonnamment il n'y avait jamais eu une exposition sur Adolfo Wild. Et donc je passe la parole à Ophélie qui va parler plus dans les détails de Wild.
Alors ici, je vous montre une vue justement de l'exposition Wild à Forlì en 2012. où vous voyez que déjà le principe de ce dialogue entre les œuvres de Wildt et par exemple un antique comme le Torse du Belvédère ou alors des œuvres de la Renaissance ou des œuvres contemporaines de Wildt étaient déjà au principe de l'exposition. Nous, on a resserré vraiment tout ça. Donc, on a choisi 60 sculptures de Wildt, 20 œuvres de comparaison et à peu près 30 dessins de Wildt. Donc, on a vraiment voulu resserrer tout ça pour essayer de faire comprendre vraiment qui était Wildt, d'où il venait, et de manière peut-être un peu moins polyphonique qu'à Forli. En revanche, un des principes qu'on a gardé parce qu'on l'a trouvé, on a trouvé qu'il fonctionnait très bien, c'était pour certaines œuvres de prendre les déclinaisons en marbre, en bronze, ou parfois même deux marbres d'une même œuvre, parce que Wildt, en tant que grand spécialiste du marbre, il s'est formé en travaillant le marbre, en taillant le marbre, en le finissant plus exactement d'ailleurs, aime à travailler des marbres différents pour leurs différentes qualités. Et donc, par exemple, pour ses oreilles, on a montré deux marbres différents pour montrer aussi le traitement, la patine qu'il met sur certains, qui leur donne une teinte un peu ça ressemble à de l'ivoire. Et donc, ça jaunit un peu avec le temps, donc c'est un peu moins flagrant maintenant. Mais malgré tout, donc, il y a à la fois ce travail sur le poli et sur des jus qui sont impliqués sur le marbre, qui est vraiment passionnant. Et donc, confronter plusieurs marbres différents, plusieurs traitements différents, plusieurs finitions, permettent aussi de montrer toute la maîtrise de Wildt, évidemment, dans ce travail de finition du marbre. Alors, je vais plus vous parler un peu de la scénographie, de comment ça se passe pour une exposition de sculpture. Effectivement, là, on a fait une procédure classique, celui d'un appel d'offres. Alors, c'était assez intéressant parce que c'est la première exposition de sculpture au musée de l'Orangerie. Donc c'était un peu un défi pour nous aussi, quand on a su qu'on allait à l'Orangerie, parce que bon, ce sont toujours des discussions, à la fois qu'est-ce qui va le mieux marcher, qu'est-ce qui va le plus attirer les foules, qu'est-ce qui correspond plus au public de l'Orangerie, qui est un public qui est très ouvert. À l'Orangerie, on peut vraiment se permettre de présenter des artistes un peu moins connus, et les gens viennent quand même, et sont vraiment au contraire en recherche de ça. À Orsay, c'est peut-être un peu plus compliqué, ou alors on va plutôt le mettre au 5e étage, qui est plutôt l'espace qu'on va réserver au mouvement, aux artistes un peu moins connus. La décision a été prise de mettre Dolce Vita au 5e étage d'Orsay et Adolfo Wildt à l'Orangerie. Alors, ça nous a posé des problèmes très pratiques, étant donné que le monde charge n'est pas prévu pour ça. Donc, notamment, on a un monde charge qui n'est pas très large. Donc, il y a notamment un prêt qu'on n'a pas envisagé dès le début, qui était la magnifique fontaine monumentale de Wildt qui est dans les jardins de la Galleria d'Arte Moderna. Très vite on a compris qu'elle passerait jamais dans le monde charge et que c'était absolument inenvisageable. On a aussi fait un travail avec le transporteur pour les dimensions des caisses, en leur disant de surtout pas prévoir trop large et de nous donner les dimensions des caisses dès qu'on leur donnait une dimension du neuf pour savoir si ça pouvait rentrer. Parfois on a dû décaisser d'ailleurs au rez-de-chaussée et ensuite transporter l'œuvre sur palette au sous-sol. Enfin, des questions très pratiques que pose toujours la sculpture. Les scénographes, on se rend compte aussi quand on a une exposition purement sculpture qu'on a vraiment des sensibilités plus ou moins adaptées, on va dire, à la sculpture aussi, ou en tout cas je trouve que dès le début on sent si ça va fonctionner ou pas et si le scénographe a vraiment une affinité avec le sujet. Ici je vous montre un premier projet où on était vraiment dans une présentation assez classique, et c'est précisément, nous on voulait quelque chose vraiment qui change. On a eu quelque chose qui fonctionnait bien au niveau du parcours, finalement des cimaises, des salles dégagées qui étaient assez rectangulaires, très simples. On ne souhaitait pas spécialement aller vers cela. Le deuxième projet, lui, était très original. On n'avait jamais fait ce genre de choses. Ce qui nous a vraiment freiné, c'était le fait qu'on avait une négation totale du socle. Et chez Wildt, c'est très important le socle, et notamment la verticalité. Et là, au contraire, il nous proposait très souvent de poser notamment les bustes sur des tables, ce qui est un peu à la mode. Mais personnellement, moi, j'ai un peu du mal avec cette présentation. Donc, dès le début, ça nous a un peu bloqué. Et puis, en plus, on avait une question pratique sur laquelle ils n'avaient pas pu nous répondre. C'était, ces cimaises autoportantes, sont-elles vraiment solides et résistantes si on appuie des œuvres dessus ou contre. La réponse était un peu évasive. Donc, pour toutes ces raisons, on ne s'est pas orienté vers cette solution. Et finalement, donc, c'est le troisième candidat qu'on a retenu, qui s'appelle Martin Michel, et qui depuis on a retravaillé d'ailleurs, notamment pour Apollinaire. Actuellement au musée de l'Orangerie, on fait un peu de pub. Voilà, lui, dès le début, il nous a proposé cette rotonde centrale qui n'avait jamais été faite dans les scénographies du musée de l'Orangerie, qui fonctionnait particulièrement bien et qui était particulièrement bienvenue dans la mesure où les œuvres de ville peuvent être un peu plombantes, sont très fortes, assez torturées. Et on se disait que peut-être au bout d'un moment, le visiteur allait ressentir un peu de l'oppression. Et donc cette rotonde permettait de faire un espace un peu de bien-être, aéré, au milieu du parcours, et ça nous semblait assez bien fonctionner. Et alors il avait eu l'intelligence aussi de nous proposer trois scénarios possibles de parcours, donc en rentrant par le bout, et puis l'entrée habituelle des expositions qui est celle-là. Et on a tout de suite retenu cette proposition, d'ailleurs qu'il avait plus développée dès le début en pensant que c'était la meilleure, donc où on rentrait effectivement par le fond. Et ça permettait vraiment de faire correspondre en plus nos sections, parce qu'on lui avait évidemment présenté nos sections et la liste d'œuvres au moment où on fait l'appel d'offres. Et il nous avait proposé cette section autour de la famille dans cette rotonde, et elle marchait particulièrement bien. Donc voilà, dès le début, d'ailleurs, il avait fait des plans très aboutis. Donc il y a des choses qui ont changé à la marge, mais on est complètement dans l'esprit qu'on a retenu par la suite. Parce que parfois, on prend un scénographe, personne ne nous convient tout à fait. Alors on se dit, bon, ben, on va prendre celui qui nous convient, allez, par défaut, le mieux. Et puis on va tout modifier, mais en général, ça ne fonctionne pas. Parce que voilà, il y a des frustrations de part et d'autre. Donc ici, vous voyez le projet d'avant-projet sommaire, donc il nous fait un premier plan. On lui avait donné les œuvres par section, mais on l'avait laissé un peu libre de nous proposer des implantations, parce qu'on ne voulait pas le brider, en fait. Et bon, forcément, du coup, il y a plein de choses qui n'allaient pas, parce qu'il y a des rapprochements, voilà, pour des raisons X, Y, de date, de nous aussi, ce qu'on veut démontrer dans l'exposition, qui ne marchait pas. D'où ce plan annoté, qu'on ne lui a pas donné tel quel, bien sûr, qui est fait, en fait, au cours d'une réunion qu'on a eue, et où on a bougé plein de choses à l'intérieur des sections. Donc, il en est. Alors, ce qui est très bien aussi, c'est qu'il nous avait fourni dès le début ceci, ce qu'il appelle l'inventaire. Et donc, section par section, on a l'échelle des œuvres les unes par rapport aux autres. Et ça permet vraiment de se rendre compte aussi de l'impact de certaines œuvres dans une salle. Pour la sculpture, c'est assez précieux. Donc ici, l'avant-projet sommaire un peu consolidé, avec toujours un peu des zones de flou qu'on a résolues assez tard, en fait, dans ce cadre. Ce qu'on a appelé l'épilogue, qui était une sélection très resserrée d'œuvres de Fontana et Melotti, deux élèves de Wildt. C'était un peu compliqué parce qu'on ne voulait pas que ça se termine un peu en queue de poisson. En même temps, c'était montré aussi que Wildt avait été le maître de grands artistes de la modernité italienne, mais qui s'inspire en rien de son style, hein, qu'on a sans doute appris des choses à son contact, mais dont on peut difficilement visuellement faire une correspondance tout à fait évidente. Et puis il y a cette zone-là. Finalement, on avait un peu trop d'espace là au début, mais on ne savait pas trop quoi en faire. Et c'est devenu un espace tactile. Voilà les axonométries de l'avant-projet sommaire. On a beaucoup travaillé aussi sur la hauteur des socles. Là, on lui a donné les hauteurs des socles qu'on souhaitait pour les différentes œuvres. Et on lui a dit aussi dès le début qu'on voulait, c'est pas très fréquent comme demande, mais des socles avec très peu de mise à distance. Donc quand c'était pas possible, on mettait une cloche, tant pis. Mais on voulait vraiment garder l'esprit élégant des œuvres de Wildt, donc avec ces socles très hauts, plus hauts que ce qu'on a l'habitude de voir actuellement dans les musées, assez étroits, qui mettent vraiment en avant un côté très architectural, finalement, de sa sculpture. Et voilà, on lui a donné, par exemple, cette photographie comme base de travail, une présentation donc d'œuvres de Wildt à la Biennale de Venise de 1922, où il avait une salle qui lui était consacrée. Il a travaillé avec notamment Alessandro Mazzucotelli, qui a fait ces magnifiques arbres. Vous voyez des socles, bon, on n'est pas allé jusque-là, hein. Là, on est vraiment dans un socle métallique extrêmement fin, très léger, mais vous voyez que même dans la présentation des hauts reliefs, on est dans des socles qui sont encore plus étroits que les œuvres. Mais vraiment, par exemple, pour le Vir Temporis Acti, ici, c'est vraiment l'esprit. Là, c'est quasiment les mêmes proportions, hein, qui ont été choisies dans le socle de la scénographie de l'exposition. Ensuite, l'avant-projet définitif. Donc, on progresse toujours dans le parcours. Donc, des documents qui sont toujours plus précis, qui s'affinent évidemment au fur et à mesure des refus, des nouvelles œuvres qu'on propose. Voilà, on progresse sur les coupes, sur les espaces d'entrée, sur le graphisme aussi, évidemment. Et ici, par exemple, un document de travail où on lui avait dit qu'on voulait finalement voir cette œuvre un peu plus bas, mais on se rend compte que les gens vont sans doute aller la toucher, que c'est un peu trop à portée de main, donc on a rajouté ensuite une mise à distance. Là, évidemment, lui, il travaille sans avoir vu les œuvres, donc nous, on savait qu'il y avait une base intermédiaire, donc on lui indique. Et on lui indique aussi assez tôt les œuvres dont on pense qu'elles doivent être pâtées, qu'elles doivent être sécurisées. Voilà, ici on est au document de consultation des entreprises qui commence à être le document quand même vraiment très proche de la réalité où vous voyez qu'on a progressé sur cet espace d'accueil où on a mis la biographie ici, la citation d'accueil, les fameux espaces tactiles ici et à la fin un épilogue dont on a finalement un peu changé la forme pour laisser un peu plus de place d'ailleurs aux œuvres de Wildt derrière. Enfin, le travail sur les cartels détaillés, sur tout ce qui est outils de médiation, où on cherche toujours à faire un équilibre, évidemment, d'une salle à l'autre. Il ne faut pas qu'il y ait une salle qui concentre tous les cartels détaillés. Donc, on voit aussi l'équilibre de tous ces textes répartis, parce qu'un reproche qui nous est souvent fait, c'est qu'une exposition manque d'explications. Alors, il faut savoir qu'on est très bridé pour ça, on n'a absolument pas le choix, et qu'on a un nombre très restreint. À la fois en nombre de signes pour les panneaux de salle, mais aussi pour les cartels détaillés. Et d'ailleurs, là, on nous a dit qu'on en avait trop, des cartels détaillés. Et jusqu'au bout, on s'est battu pour en avoir quand même un certain nombre, parce que justement, les œuvres de Wildt sont assez compliquées, pas connues, et il nous semblait nécessaire d'apporter cela, parce qu'évidemment, tout le monde ne prend pas l'audio guide. Et voilà, enfin, on a choisi le visuel d'entrée de l'exposition. Donc là aussi, on a hésité entre pas mal d'œuvres. Finalement, on a pris une œuvre qu'on n'avait pas obtenue et qui est un grand chef-d'œuvre de Wildt et qui invite donc à entrer dans l'exposition. Et voilà, on termine par quelques vues. Alors aussi, la proposition du scénographe, qui était vraiment intéressante, c'était de proposer en fait un dégradé de rouge qui allait en s'éclaircissant vers la fin et dont on n'a pas forcément conscience, notamment entre la première et la deuxième salle. C'est très subtil, mais en fait, ça fonctionnait vraiment très bien dans le parcours. Donc, c'est la salle des débuts. Et vous voyez aussi des socles qui sont quand même assez originaux, qu'on ne voit pas souvent. Et là, on aperçoit le vire temporisacti derrière. Alors évidemment, il y a des questions de solidité du socle, hein, évidemment, puisque ici on a une œuvre qui est extrêmement lourde. C'est aussi très important de travailler sur la structure, ce dont n'ont pas forcément conscience les entreprises qui travaillent pour les expositions, qui ont plus l'habitude de la peinture ou des objets d'art, pas forcément de la sculpture. Voilà, on progresse dans le parcours. Ici, donc, cette fameuse rotonde, donc on a rajouté cette mise à distance autour de ce plâtre extrêmement fragile qui provenait de Venise. Et puis, ce qui nous a beaucoup plu dans cette rotonde, c'était le côté très architectural aussi. On voulait que ce soit une rotonde qui soit assez épaisse pour ne pas faire justement carton-pâte et qu'on ait quelque chose de vraiment présent. Et voilà la dernière salle avec le fameux buste de Mussolini, dont la question s'est posée évidemment de savoir si on exposait ou pas le buste de Mussolini, qui ensuite a été extrêmement dupliqué, notamment dans les maisons du fascisme. Finalement, on a décidé de présenter, d'être très transparent sur cela, d'autant plus qu'à la même période, il fait un buste de Toscanini, qui est l'opposant au régime notoire. Et puis en plus, c'est un artiste qui est mort en 1921, qui est mort assez tôt. Enfin, bon, il y a plein de choses dont on ne connaît pas vraiment les opinions politiques, finalement. Donc, on a décidé vraiment de présenter cette œuvre, d'autant plus qu'à Forlì, ils avaient aussi présenté.
Et surtout, on a choisi de présenter avec les trous.
Présenter un buste mutilé, oui, voilà. C'est un bronze qui a été effectivement mutilé à la Libération. Donc, c'était aussi un peu symbolique de présenter cette œuvre-là. Et c'est des petits détails, mais par exemple, le sonographe nous avait proposé de le mettre au débouché de la salle sur la famille, vraiment en majesté. Et on a choisi de le mettre sur le mur de droite. C'est des choses pas forcément, auxquelles on ne pense pas forcément au début, mais finalement, ça permet aussi de distancier un peu le rapport à l'œuvre. Et voilà, donc la dernière salle consacrée à Wildt. Je crois que je n'ai pas de vue de la salle Fontana et Melotti. Voilà.